création on air. Creation on air.
Bonsoir, elle s'appelle Anne de Jon. Depuis sa naissance, impossibilité de contrôler tout à fait le corps qui l'abrite. Quand Sylvie Gastaud l'enregistre une première fois avec Pierre Potier, c'est dans son fauteuil roulant, une rebelle à la licorne qu'elle vient rencontrer. La seconde fois, c'est celle qui s'est bagarrée pour parler et vivre debout. Si l'idée est bien sûr d'aider Anne à se faire comprendre par le montage, une autre évidence, la qualité d'un univers sonore inouï, au point que ce qui aurait dû être coupé au montage a été mis de côté pour composer en guise d'apéritif sonore extra dry une ritournelle de quelques minutes au début de ce création on air. Anne de Jon, La rebelle à la licorne, par Sylvie Gastaud et Anne Fleury.
Anne, tu es née lourdement handicapée. Tu ne peux te mouvoir et contrôler ton corps. Tu as du mal à articuler et parler te requiert une grande énergie qu'on perçoit violemment au premier abord. Tu te tiens dans un fauteuil électrique. Tous tes gestes sont ramenés au bout d'une licorne que tu portes sur un gros serre-tête en cuir. C'est avec elle et l'inclinaison de ta tête que tu peux te déplacer, avancer, reculer, déambuler, téléphoner et quoi d'autre ?
Je fais de l'ordinateur.
Tu peux faire de l'ordinateur ?
Oui.
Enregistrer Anne de Jon, La rebelle à la licorne. Anne de Jon, La rebelle à la licorne.
Anne de Jon, La rebelle à la licorne. Le monstre à roulette.
Le monstre à roulette.
Oui.
Anne, nous allons faire une émission ensemble diffusée sur France Culture.
Avec mes difficultés d'élocution. C'est bizarre.
Elle va commencer ainsi. Jacques Lifshin, ton vieux copain de théâtre de l'Unité, va venir devant l'ancienne maison pour tous et t'accoster.
D'accord.
Quel âge avez-vous, Anne ?
58 ans.
58 ans ?
Oui.
C'est vrai ?
Oui.
C'est énorme.
Et toi ?
73.
Oh, ouais.
Je ne les fais pas, hein. Actuellement, j'ai beaucoup de mal à trouver des gens plus vieux que moi. Ils sont tous morts, déjà. Oh. Regarde, prise de sang. Surveillance médicale.
Il a soi-disant 14 souvenirs à nous raconter. Les pires qui soient sur toi. Mais tout d'abord, l'enfance. Ton enfance.
Je suis né en 57. Calcul. Intuit. Nungaro.
Ça vient. La sage femme dit, ça vient, ça vient.
Nougaro, j'adore Claude Nougaro.
Ça vient, ma distendue, mon étranglée, oh ma montagne écartelée, fille ou garçon, qu'importe, faut que ça sorte, pousse la porte, viens, 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 viens.
Mes parents ont été formidables. Ma mère Et on m'emmenait partout.
Comment s'appelait ta mère?
Simone. Elle était chiante, chiante, méchante, gravissime. Mais très adorable, quand même. Je suis issu d'une fratrie de quatre. Christophe, Geneviève, Brigitte. Ma mère et mon père m'ont toujours considéré comme à part entière. À part entière. Christophe, il est mort du sida. Hélas. Avec Christophe, on a fait les pires conneries. Les pires conneries. Des verres et des familles. Mon bref. Basson.
Et ton père?
Mon père était directeur artistique de chez Basson Marconi. En classique.
Il s'appelait comment ton père?
Peter. Je suis d'origine anglaise.
Peter de Jonc était un personnage exceptionnel dans la vie musicale classique, non seulement chez Patti Marconi à Paris, mais dans l'ensemble du monde artistique. Extraordinairement atypique, il donnait parfois l'impression d'être un peu toqué, passant de l'hilarité la plus totale à la fureur incontrôlable. J'en ai fait souvent les frais. Il était une des personnalités les plus attachantes, les plus intelligentes que j'ai connues. Il avait une grande connaissance de la musique, ainsi qu'une mémoire personnelle et musicale, un sens de l'interprétation, un raffinement et, à tout très rare pour un haut responsable dans le monde de la musique, le respect inné des grands artistes.
L'anglaise. Mon père, c'est lui qui a fait entrer la classe. C'est lui qui a organisé l'entrement de la classe. C'est lui qui a trouvé Rostropovitch. C'est lui qui a trouvé Frédéric Lodéon. Jean-Philippe. Collard. Et je suis plus encore.
Rien n'était jamais trop beau pour les artistes qu'il admirait. Et cela ne valait pas seulement pour les vedettes reconnues. Il possédait également une étonnante perception des jeunes talents et leur donnait toujours leur chance, son appui et celui de la maison Patti Marconi tout entière, grâce à son autorité personnelle et aussi à celle qu'il avait en tant qu'anglais auprès du centre EMI Londres, propriétaire de Patti Marconi. Il se souvenait des numéros de matrice inscrits sur les disques en vinyle, les 78 tours, de ses enregistrements préférés, c'est-à-dire de tous les Rachmaninov, Toscanini et beaucoup, beaucoup d'autres.
Tu aimes la musique?
Depuis toute petite. Alors moi, la musique classique. Les disques si bon, il y avait partout, même dans les chiottes, même dans les chiottes, les chiottes. Je me souviens, Rostropovitch,
quand il est arrivé de Russie,
dans du RSS. Mon père l'a découvert.
Mon père l'avait découvert.
Et Rostropovitch, pour remercier mon père qu'il avait
pour remercier mon père qu'il avait fait venir en France.
Il a dit à mon père, je reviens.
Il a dit à mon père, je reviens.
Et
il est allé nous acheter des chemises Monoprix.
Il croyait que c'était bien.
Le magasin Monoprix.
C'était du luxe.
Du luxe.
Il croyait Mon prix, c'était bien. Dix, mon prix.
Peter, un jour de colère contre Londres, a déchiré avec ses dents son passeport anglais. Il a ensuite dû le faire refaire en prétendant l'avoir perdu alors qu'il l'avait avalé puis craché dans sa corbeille à papier. Lorsque le téléphone le dérangeait au milieu d'une conversation qui l'intéressait, il lui arrivait fréquemment de jeter l'appareil dans la même corbeille à papier. Mais lorsqu'il venait au studio pour un enregistrement qu'il aimait, c'était un tout autre homme, recueilli, ému, timide. Il s'épanouissait dans l'admiration, dans cette musique qu'il aimait tant. Et la musique le lui rendait bien. Un chapitre entier ne suffirait pas à évoquer les aspects absolument hors du commun de ce personnage, qui allait laisser une empreinte et un souvenir impérissable longtemps après sa mort prématurée.
Voilà donc l'histoire de mon père. C'était bien.
Il était un monsieur Pickwick auquel tous ceux qui l'ont connu vouaient une affection indéfectible.
À la mort de mon père. Oh, trop poétique. À jouer à la messe.
À la messe.
Des phrases sur la mort, d'accord ? J'aime beaucoup ça, la mort. D'accord ? T'en as des phrases ?
Non.
On vit peu, mais on meurt longtemps. Ça te fait rire, oui. Et t'es orpheline maintenant ?
Non, oui.
Ta mère est morte ?
Oui.
Ton père est mort ?
Oui.
Ton frère est mort ?
Oui. Si, oui.
Tu es né un 26 novembre. Dans le calendrier républicain qui suivit la révolution de 89, tu es mâche. Mâche, la salade.
Ah, mon mâche.
Tu as 10 ans en mai 68. Se profile une adolescente rebelle qui écoute de la musique Peace and Love. Rebelle, mais profondément pacifique.
Je suis la dernière de 4 enfants et je me suis barré la première.
Tu t'es barré la première ? Oui. Pendant ce temps-là, rue Lecourbe, 7 garçons se rencontrent et décident ensemble de fomenter une révolution, de s'émanciper. Le 27 décembre 1974, ils fondent l'association Vivre Debout, parrainée par Jacques Brel. Tu les appelles les 7 missionnaires, ils vont bouleverser ta vie. J'ai demandé à Catherine, Catherine Papouin, de nous raconter l'histoire de Vivre Debout.
Vivre Debout est né rue Lecourbe, dans le 15e arrondissement. Rue Lecourbe, c'est une grande bâtisse dans laquelle on peut accéder par une porte cochère. Porte cochère, en général fermée par une grille, une lourde grille. On arrive dans une cour intérieure, un bâtiment au fond, à droite, à gauche. On est déjà enfermé. Rue Lecourbe, à Saint-Jean, parce que l'établissement est géré par des prêtres, on est classé par maladie. Un étage de myopathe, un étage d'IMC, d'incapacité moteur cérébrale. Vous comprenez, c'est plus facile. Les mêmes besoins, les mêmes soins. Vivre debout est né dans un de ces dortoirs. Pas de chambre individuelle, des dortoirs. Vivre debout est né sur la lancée de mai 68. Tout le monde se libérait. Pourquoi pas les personnes handicapées ? Le problème, c'est quand on est enfermé. Comment imaginer ? Comment créer son futur ? Mes copains qui ont créé Vivre debout ont été aidés par des gens qui leur apportaient l'extérieur, la vraie vie. La mère de Fabrice. La maman de Fabrice, elle avait vu que les saladiers de salade verte, systématiquement, à chaque repas, repartaient sans être touchés en cuisine. Donc elle s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne mangent pas de salade ? Elle a goûté, pas de sauce. De la salade verte sans sauce. À partir de ce jour-là, la maman de Fabrice venait à chaque repas faire de la vinaigrette. Donc la salade avait du goût. Et Gérard, Anko, ont mangé de la salade. Et la salade, ça aide au transit intestinal. Donc ils allaient mieux. Et c'est l'idée de vivre debout. C'est une idée basé sur la libération, la prise en main de sa propre vie. Mais c'est aussi l'idée que dans de meilleures conditions de vie, on gagne des années. Rue Le Courbe, à Saint-Jean, après les stations des feux, le soir, il y avait des petites lumières qui s'allumaient. Et ces petites lumières, c'était des lampes de poche. Parce qu'il fallait fomenter la révolution. Il fallait sortir de Saint-Jean. Mais comment sortir de Saint-Jean ? Comment faire quand on a 18 ans ? Comment faire quand on a 18 ans et que, depuis sa tendre enfance, on vous dit, de toute façon, c'est pas la peine qu'ils aillent à l'école. Leur espérance de vie ne sera jamais au-delà de 18 ans. Pourquoi dépenser de l'argent pour des enfants comme ça qui, de toute façon, n'ont pas d'avenir? Pourquoi leur apprendre l'anglais? Ça sert à rien. Ils sortiront jamais de France. Déjà, ils peuvent pas sortir de Saint-Jean. Inutile. Avec cette violence qui les entoure, il faut sortir, il faut trouver des solutions. Écrire les statuts. Déposer l'association. Lui trouver un don, trouver son fonctionnement. Y aura-t-il un directeur ? Ah non, certainement pas. Nous, on est 7, on sera 7 directeurs. Tous égaux. Personne nous dira ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ni autorisation, ni interdit. Est-ce que je peux parler au directeur ? Non. Parce qu'ici, il n'y a pas de directeur. C'est pourquoi ? Ah ben c'est pour un paiement de retard. Un prix de journée payé en retard. Ah, donc c'est la gestion. Je veux vous parler Jean-Michel. Je voudrais parler au directeur parce que je pense qu'il y a un poste à pourvoir. Ah oui, mais ici, il n'y a pas de directeur. C'est pourquoi ? Ah ben c'est pour une offre, une demande d'embauche. Ah ! C'est Jean-Marc. Donc, en fait, les tâches étaient réparties entre nous pour faire tourner la structure. Ce qui les a aidés à construire Vivre debout, c'était en fait Roland Luré, qui était leur professeur, qui leur donnait des cours de français et de mathématiques. Et qui les a, pour certains, comme pour Jean-Michel, orientés vers la comptabilité. Ils avaient déjà l'idée d'autogérer la structure.
Je ne voulais pas être en grande structure. Non. J'ai dit à mes parents, quand j'avais 15 ans, que je voulais habiter à Sarcelles.
Habiter à Sarcelles et non pas à Creil.
Parce que
Cray.
Parce que Cray, c'était 60 filles.
Moi, je suis plutôt garçon.
Moi, je suis plutôt garçon manqué.
Les filles. Et moi, ça fait
les
deux.
Filles et moi, ça fait deux.
60 filles.
Pas mixte à l'époque.
En 75.
En 75.
L'époque.
L'époque n'était pas la même du tout.
Par rapport aux handicapés.
Pour les révolutionnaires de 68, ceux qui étaient dans les rues, ceux qui ont leurs jambes, ceux qui peuvent crier haut leurs revendications, c'est déjà difficile. Mais quand on est cloué dans un fauteuil, c'est pratiquement insurmontable. Et pourtant, ils l'ont fait. La structure, ils ne savaient pas trop quelle forme ça allait prendre, mais là où ils allaient habiter, leur chez-eux.
Être chez moi, ça veut dire faire ce que je veux, quand je veux, me coucher à 1h du matin, sortir, aller voir ma mère, prendre le train, tout seul. Et à sa tête, je faisais ce que je veux, ce que je voulais. Alors, ça déplaisait à beaucoup d'éducateurs.
Et ce chez eux, ça s'est révélé en fait être trois appartements situés rue de la Grenouillère à Élancourt, une espèce de grande communauté où il y avait où ils mangeaient ensemble, ils avaient leur propre chambre avec des posters de Bob Dylan, Che Guevara pour certains, pour d'autres c'était des icônes de la Vierge ou des statues parce qu'ils avaient tous leur une très forte personnalité et au sein de ce groupe chacun d'entre eux était différent.
Je suis sorti le 8 octobre 77 de sa scène. J'ai pris contact avec les sept missionnaires.
Il s'appelait Jean.
Jean-Michel, artiste.
Il s'appelait Gérard.
Paul et James.
James, Paul.
Abraham.
Dédé.
Jean-Marc.
Jean-Marc. Alain.
Alain.
Vous avez remarqué que des prénoms masculins? Ben oui, parce qu'à Saint-Jean, il n'y a pas de mixité. Ils sont entre garçons. Donc vivre debout au départ, c'est une association de garçons. Et les filles alors?
Qu'est-ce que tu fais?
Les filles, elles sont où les filles? C'est comment les filles dans la vraie vie?
À Sarcelles, tu étais du groupe des handicapés contestataires du foyer de l'association des IMC, infirmes moteurs cérébraux. À cette époque, tu n'as pas encore de fauteuil électrique, mais tu n'as que ça en tête. Tu sais que tu peux, dans un fauteuil électrique, être indépendante en manipulant ta licorne. Ta licorne, tu l'aimes autant que tu la détestes.
Je suis toute seule, je crois. Enfin, à me servir.
Servir comme d'une main.
Licorne. Lorsque je vous ai vu arriver, je me suis demandé de quoi votre nez était affublé. Mais bien vite, j'ai compris que loin d'être mythique, vous étiez très sympathique. Sur votre carrosse dorée, vous êtes comme des fées. Apparition magique, due à la prouesse technique. Loin de nous effrayer, vous nous montrez à aimer, sans jamais rien compliquer. Serait-il possible que votre nez si agile soit mu par Dieu?
Jocelyne Bonsang, présidente de Vivre Debout.
C'est un poème appelé « Élégie sibylline » par Jean-Paul Bonsang, alias Jean Bonaria. Ben, il avait écrit ce poème en rencontrant Anne pour la première fois.
Laila, c'est lui.
La condition sine qua non pour entrer à vivre debout est d'avoir un fauteuil électrique.
C'est grâce à un émir arabe.
Tu as rencontré un émir arabe ?
La providence a fait qu'un émir arabe m'a fait le don d'un fauteuil électrique pour ne pas payer d'impôts.
Il s'est proposé de vous offrir des fauteuils électriques pour éviter de payer trop d'impôts.
Alors nous, on a dit oui tout de suite. Et voilà comment je suis arrivé ici.
Aujourd'hui, tu vis à Morpa dans un appartement au rez-de-chaussée.
C'est où ?
Patricia, Anne, Jocelyne sont arrivées en une deuxième vague parce qu'on avait fait nos preuves, nous, que c'était possible. Et qu'on avait donné envie à d'autres personnes handicapées de vivre la même aventure. Quand ils sont arrivés dans ces grands appartements, la première fois que j'y suis allée, dans la salle qui servait de buanderie, avec la machine à laver par exemple, il y avait des tas de chaussettes et des tas de fringues. Alors je dis à Fabrice, mais pourquoi tant d'habits, de vêtements en tas à côté des machines ? Il me dit, tu sais pourquoi ? Toute notre vie, nos habits ont été marqués avec notre nom et notre prénom. Et bien maintenant, on refuse ça. Nos habits ne sont plus marqués. Le contre-effet de cela, c'est qu'en fait, le personnel qui s'occupait d'eux n'arrivait plus à savoir qui était à quoi et n'arrivait plus à redonner les chaussettes au bon propriétaire. Mais les chaussettes n'étaient plus marquées. Et c'était pour eux un signe qui n'était plus en établissement, mais qui vivait une vie le plus proche de la normale. Ah, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce que prévoir des repas, faire des courses, tout ça, ils n'avaient jamais expérimenté à Saint-Jean. C'était d'autres personnes qui le faisaient pour eux.
Serait-il impossible de vivre ?
Anne, il paraît que tu fais tes courses toute seule ?
Oui. Tu vas être étonnée. Mignon. Monsieur, donnez-moi deux paquets de castagne. Deux paquets. Dans le sac. Merci. Au revoir. Monsieur, la caisse handicapée.
Passez ici, madame, s'il vous plaît.
Prenez ce qu'il y a. Il y en a deux. Et prenez ma carte. Bleue. 0643.
Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Avec Anne Dejon, j'ai le pire souvenir qu'un homme puisse connaître dans sa vie. J'en ai 14 souvenirs graves. Hein. Le premier, le plus grave pour moi, c'est quand j'organise un stage de théâtre de montagne en Lozère, Pont de Montvert, elle s'en souvient. Voilà. Je vois dans les inscrits Anne Dejon. Alors j'appelle, je dis c'est une catastrophe. C'est impossible que tu fasses ce stage, on va aller dans les montagnes. Ça va être des longues marches. Elle dit, je m'en fous, je viens. Et je dis, mais Anne, ça va pas être possible.
Si, ça va être possible.
Oui, elle dit, ça va être possible. Bon, non, mais moi, je peux pas régler les problèmes matériels. Elle dit, je m'en occupe, je viens. Donc, arrive Anne en Lozère, dans 1000 mètres d'altitude, dans un paysage escarpé. Et il y a un jour, alors là, c'est le pire des jours. Alors, on fait notre stage, bon, ça va. On est tout de même dans une maison, on va un peu dans les rues du Pont de Montvert, tout va bien. Et puis là, on veut faire une soirée très spéciale dans la nuit, comme on l'aime, en pleine forêt. hein, dans la montagne, là où se réunissaient les protestants quand ils étaient pour chasser. Hein. Il a dit, je viens. Oh non, je dis non, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible, là, il y a des sentiers escarpés. Je viens, transportez-moi à dos d'homme.
Non.
Non ?
La randonnée.
T'as fait la randonnée ?
Électrique.
Électrique ? Mais léger.
Mon dossier cassé.
Avec le dossier cassé. Et donc, on la traîne là-dedans.
Mais... de folie. De folie.
On passe dans les petits chemins, mais c'est une horreur, ça. Hein ? Une horreur. Mais j'ai dit, mais quelle plaie, cette fille. Parce que quand on est handicapé, on la ferme. Hein ? C'est tout.
Alors... un tri de folie. Et puis, mon accompagnateur, il m'a réparé le dossier de fauteuil. Des bouts de ficelle. Mais vraiment, des bouts de ficelle.
Ouais, tu parles mieux qu'avant. Des bouts de ficelle, on comprend ce que tu dis. C'est nouveau. Attends, tu vas pas parler des heures. C'est moi qui ai l'interview, c'est pas toi.
C'est vous.
Non, attends. Tu rigoles, attends. Tu peux pas interviewer quelqu'un qui met une heure pour dire trois mots. Deuxième... arrête de me taper avec ta licorne, ça c'est con. Mais... deuxième souvenir. Numéro 2, le pire de tous. Ça, tu t'en souviens ? Ça s'appelle le rétroviseur. Donc on décide de faire une action de rue qui consiste à scanner dans la rue, tamponne une voiture et casse son rétroviseur. Donc c'était des complices. Donc elle casse le rétroviseur, on avait tout truqué, c'était bien. Le rétroviseur tombe, le type sort de la voiture. Mademoiselle, il faut faire un constat, vous venez casser mon rétroviseur. Immédiatement, il y a une foule, hein. Tiens, une énorme foule qui nous entoure. Tout le monde me prend à partie, mais monsieur, vous n'allez pas attaquer. Attends, moi j'ai une voiture, j'ai une belle voiture, elle vient de casser mon rétroviseur, j'en ai au moins pour 100 euros de réparation. S'il vous plaît, madame, on va faire un constat.
À l'époque, c'était différent.
Oui, d'accord, mais je traduis, parce qu'on parle à des gens d'aujourd'hui. Et je dis, on va faire un constat. Oh, la foule! C'est insensé, les gens discutent, c'est insensé. Le monsieur, il réclame. Et donc là, plein de gens viennent lui donner de l'argent. Tenez, monsieur, on va vous le payer, votre rétroviseur. Et là, on ne peut plus revenir en arrière, plus dire aux gens que c'était truqué. Alors, il y a des mecs qui arrivent. Moi, monsieur, je suis animateur chez les handicapés. On ne traite pas les handicapés comme ça. Et là, Anne, elle est formidable. J'ai dit, allez parler à Anne. Et Anne explique, t'en souviens ? Pour une fois qu'on me traite comme tout le monde, eh bien, je suis bien contente. Tu te souviens que tu as dit ça ? Les gens étaient stupéfaits. Je demande d'être traité comme tout le monde. Si je casse un rétroviseur, je le paye. Tu t'en souviens tout de même ? Ah bon, d'accord.
1980, une très bonne année pour toi. Tu as rejoint Vivre Debout. Tu as ta licorne. Le fauteuil de l'émir arabe. Tu peux sillonner tout ton territoire, il est adapté à tes roues. Quelqu'un a pensé à toi, l'incroyable Gérard Doriz.
Gérard,
parmi les sept garçons fondateurs de Vivre Debout, il y avait un copain parmi nous qui s'appelait Gérard Doriz, qui était salarié de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et spécialisé dans l'architecture. Donc, il vérifiait si les plans de la ville nouvelle étaient conformes à l'accessibilité des personnes handicapées. C'était son job.
C'était très à l'avance à l'époque.
Donc, il a c'est rendu bien. La ville nouvelle accessible, Gérard. Franchement, tout seul, dans son petit bureau, il était intraitable. Et il voyait passer tous les plans de la ville nouvelle. Et nous, on était tous entassés au 7 mars, dans trois appartements. Donc c'était le premier foyer Vivre Debout qui était un foyer communautaire en fait où on n'avait qu'une seule chambre. Et Gérard a fait pression sur la société d'HLM. Il a préempté tous les rez-de-chaussée. Il a dit nous, on est une association de personnes handicapées, on va devenir vos locataires. Donc au départ en fait les appartements étaient pris au nom de l'association. Et en fait au fur et à mesure de notre désir d'émancipation, on est devenu signataire de nos bails, de nos bouts. Oui. Tous les plans passés, à la fois les immeubles, les aménagements, les carrefours, les parkings, enfin tout ce qui constitue la ville nouvelle, tout passé dans les mains de Gérard.
Et il est où Gérard ?
Il est décédé il y a très longtemps. L'école des Friches, c'est Place Gérard Doris.
Ah oui.
Place Gérard Doris.
Oui. Et en fait, ils étaient 7 comme ça. Tu multiplies la force de Gérard par 7 et tu crées Vivre Debout. Que 7 mecs qui ont dit merde au système.
Ah oui, oui.
Et c'est, moi, je suis arrivée à Vivre Debout parce que j'étais une fille. Uniquement pour ça. Parce qu'ils en avaient marre de tourner entre garçons. Ils voulaient que Vivre Debout accueille
des femmes.
Pour changer le regard. Mais exceptionnel, incroyable. Ils ont vécu des choses, mais ça fait frisson.
Troisième histoire. J'en ai 14. Elles sont les unes pires que les autres. Celle-là, tu t'en souviens ?
Laquelle ?
Avec les Serafini. On décide de faire un rendu d'atelier. Anne, bien entendu, elle veut encore faire du théâtre.
Le soir.
Et on décide de faire Othello d'Esdémone. Et toi, t'as décidé de jouer d'Esdémone. Et là, ça va être l'horreur pour les gens qui regardent. Il y a Othello qui arrive, d'Esdémone. Qu'est-ce que c'est que ce mouchoir que tu tiens entre les mains, hein ? C'est le mouchoir de Iago, d'Esdémone, tu m'as trompé. Et là, on la renverse. On renverse sa chaise. On t'a renversé et t'es par terre comme un poisson et t'agites les jambes. Il y a toute la salle qui sort. C'est épouvantable. Mais ils sont horribles, ces gens-là. Mais comment ils osent ? Et pareil, Anne dit, alors, je suis bien contente. T'étais par terre. T'avais tes jambes écartées complètement. C'était une horreur, cette vision.
Le fauteuil manuel, c'était.
En plus, c'était pas légère.
Non.
Oh là 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 là, ça c'était terrible. Eh ben, elle était contente de jouer d'Esdémone tout de même. Hein. T'étais contente. Hein. On peut le rejouer si tu veux la scène. Hein. Tu disais, Othello, ayez pitié de moi, ayez pitié.
Ah oui.
Laissez-moi vivre encore une heure. Non, prostituée, c'est toi. Et on t'égorgeait. Je t'étouffais. C'est pas moi qui jouais. T'en souviens de ça?
Oui.
Vous construirez une huile avec des loques, moi. Vous construirez sans plan et sans ciment.
1981, encore un bon coup. Tu rencontres le théâtre de l'Unité qui, de 78 à 89, invente et joue, mais aussi conçoit le Carnaval des Ténèbres,
dans lequel Anne et moi-même avons participé.
Événement fédérateur et emblématique d'une ville nouvelle, Saint-Quentin-en-Yvelines, en train de se construire.
Ouais, je vous assurerai des forteresses écrasantes et super.
On savait plus qui était qui, tout le monde voulait.
Très vite, tu vas devenir spectatrice, actrice,
tout le monde voulait,
et reine du carnaval.
Et il y a eu des animaux.
Ah ouais.
Des
animaux vivants pour le repas. Ouais. Et les cuisiniers amenaient les chevreaux qu'on amenait vivants, les portaient vivants, et deux secondes après, on les amenait morts. On les avait pas tués entre-temps, mais... C'était un repas incroyable.
Tu veux plus critiquer, tout le monde bougeait. Tous les spectateurs.
Oui, tous les spectateurs bougeaient. Et il y avait même le maire, il s'appelait comment à l'époque, le maire ? Alain
Danet.
Oh, comment elle a des souvenirs, alors. T'es pas handicapé de la tête, toi, alors. Hein.
Ah non. J'ai fini l'idée par la femme de Claude Accard.
La femme de Claude Accard, incroyable, France.
Qui travaillait à la librairie.
Oui.
De cette mort.
Oui, exact, librairie de cette mort.
Et qui m'a dit un jour, Anne, pourquoi tu te dis pas à la maison pour tous ? Parce que il y a l'Unité, et une compagnie qui fait le carnaval. Alors moi, j'ai décidé d'aller ni deux. Et puis... Tout le monde m'a accueilli normalement.
Tout le monde t'a accueilli normalement.
Ah oui, tout le monde.
Et donc t'arrives pour faire le carnaval des ténèbres, je m'en souviens bien. On dit, mademoiselle, le carnaval, vous n'allez pas le faire dans votre chaise. Il faut vous déguiser.
Je me déguise.
Voilà.
En monstre.
On la déguise en monstre, c'est pas moi qui ai cette idée.
À roulette.
L'atelier de scénographie. Qui lui fabrique un costume, tu t'en souviens, spécial pour toi, pour ta chaise. Tu étais déguisé en monstre. Mais comme tu étais caché et qu'il n'y avait pas de chaise et que c'était un truc qui roulait, tu as dit pour la première fois de ma vie, je me suis senti pas handicapé du tout. J'étais comme tout le monde. Je l'ai dit. Et ça, c'était beau. Hein?
Parce que vous m'avez accueilli tout à fait
normalement. Ah oui, ça t'a étonné, ça.
Ça m'a étonné. À l'époque, faire du théâtre pour une personne handicapée, c'était pas évident.
Non, pas du tout évident.
Oh, 80.
Surtout une personne avec une locution absolument difficile, hein. Tu reconnais ça?
Oui, à l'époque, on ne comprenait pas comme maintenant.
Ah oui, c'est tout à fait des progrès, c'est vrai?
C'est grâce au théâtre.
Grâce au théâtre? Notre terreur à nous, alors c'est le cinquième souvenir, c'était que le téléphone à l'époque, tu payais à la minute. À la minute. Et quand elle nous appelait, il y avait qui disait, oh putain, il y a Anne au téléphone, Jacques, prends-la. Vas-y Anne, accouche. Ça coûte cher avec le téléphone. L'eau. Je me moque pas là. Elle nous coûte cher, celle-là.
Je fous une gueule là.
Oui, mais c'est normal. Je te traite comme une personne normale. Hein? C'est ça que tu veux, tu l'as dit.
Je parle moins bien que maintenant.
Oui, mais c'est vrai que tu parles beaucoup mieux.
Mais on me comprenait.
Ah oui.
Et ce qui m'a étonné,
oui,
c'est que on m'avait accueilli normalement.
Mais ça fait 4 fois que tu le dis, ça va?
Non, mais je tiens. Parce que je n'avais jamais joué au théâtre.
Oh, mais non, ça, j'imagine bien.
Je sentais de ça.
De Sarcelles?
À Sarcelles, ce que je t'ai pas dit, je foutais trop le bordel. Le bordel, parce que on se connaissait tous. Et puis on était tous rebelles. Le directeur nous avait dit, vous êtes chez vous. Chose qu'il ne fallait pas dire à des jeunes adolescents handicapés qui voulaient vivre normalement. Et nous, on l'a pris à la lettre.
Mais toi qui étais rebelle et contestataire, t'es pas resté longtemps au foyer?
Non. Le directeur est venu pour me dire, tu as un rendez-vous avec une association qui s'appelle Vivonnebou. Ah oui, j'ai dit oui, d'accord. J'ai dit oui tout de suite.
Donc tout prendre en charge, c'était énorme. Énorme, un travail énorme. Et une remise en question de tous les instants. Mais là, on commençait à poindre dans leur esprit ce que représentait la liberté. La liberté, c'était aller au lycée des Sept-Mars pour Jean-Marc. La liberté pour Jean-Michel, c'était de gérer sa propre compta, savoir sur quel poste de comptabilité on devait mettre le maximum. Et le maximum à vivre debout, ça a toujours été le poste auxiliaire de vie, assistant de vie, tierce personne. Ce sont des termes différents mais qui recouvrent la même chose. C'est-à-dire, c'est une personne qui fait les gestes qui sont rendus impossibles du fait du handicap.
Moi, je ne voulais pas être en prison. En prison, parce que les foyers collectifs, c'est très peu pour moi. Pas du tout. Parce que moi, Moi, je suis indépendante grave.
De nous, indépendante grave. Il faut te déshabiller, t'habiller, te laver, ça fait ça indépendante.
Non. Non, mais dans ma tête.
Ah, dans ta tête, oui.
Dans ma tête.
Ah, oui.
Dès que je suis sur mon fauteuil électrique, je suis autonome.
Libre.
Libre.
Une fois qu'on y a habité, la dépendance et l'autonomie, on en veut plus. Mais bon, ils avaient appris à devenir indépendants, ils avaient pris goût à être compétents à gérer leur propre vie.
On va passer au huitième souvenir. Le huitième, il est le plus horrible de tous. Celui-là, alors là. Tiens, je t'invite chez moi. Hein ? J'habitais à l'époque Montigny-le-Bretonneux. Je l'invite à dîner. Ses aides me la déposent. Tout va bien. Mais ils ne viennent pas la chercher. Et moi, comment faire, Dan, chez moi ? Je ne sais rien faire. Comment la faire dormir et tout ? On décide donc de l'enlever de son fauteuil et de la mettre dans une voiture. Et là, je découvre la chose incroyable. Tu dis que t'as ton copain qui t'attend et que vous allez sans doute niquer ensemble cette nuit. Je dis ça, j'y crois pas. Et là, c'est pas une blague ce que je découvre. Alors là, c'était... Je découvre un lit qui fait au moins 6 mètres de large, hein, et il y a son copain...
Qui dormait.
Qui dormait, hein. Et elle arrive et elle saute dessus en disant j'ai envie de toi, on y va. Oh là 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 là, mais alors là je m'y attendais pas à ça. Hein. Celle-là, et ta phrase, tu sais que c'était ta phrase. Je dis mais Anne, tu fais vraiment l'amour. Et alors
Pourquoi
je me gênerais? Oh là non. Là c'était trop là.
Pourquoi on n'a pas une sexualité?
Qu'on n'aurait pas de sexualité, mais oui, mais moi je suis un peu réactionnaire et j'ai pas cru que. Ah si, j'ai pas cru que c'était possible.
Tu n'es pas réactionnaire. Non, tu t'attendais pas à ça.
Non, je m'y attendais pas.
Tu t'attendais pas à ça, c'est
ça. Je m'y attendais pas. Après, tu l'as quitté ton copain.
On n'a pas pris la même option.
On n'a pas pris la même option. C'est incroyable.
Ah, voilà. Voilà.
Alors, t'en es où de ta sexualité aujourd'hui? C'est calme.
Elle est calme.
Elle est calme, oui. D'accord.
Est-ce que tu te souviens d'arriver d'Anne, toi?
C'est assez flou. Parce que j'avais déjà quitté Vivre Debout pour une vie encore plus autonome dans un appartement. J'avais déménagé entre-temps. J'étais devenue ingénieure informatique. Et donc, c'est vrai que là, je me suis éloignée de Vivre Debout. Mais je suis extrêmement reconnaissante. Jamais je n'oublierai Vivre Debout. C'est grâce à eux, grâce à Fabrice, grâce à sa maman, grâce à ces gens qui ont cru en leur rêve, qui ont réenchanté leur vie, qui se sont battus, que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui, que la vie que j'ai eue. Parce que à Vivre Debout, on rêvait d'aller au lycée. On rêvait de travailler dans le milieu ordinaire, comme tout un chacun. Mais on rêvait aussi d'avoir des enfants, de créer une famille, d'avoir une activité sexuelle. Oh, ben oui. Eh oui, avoir des copains, des copines, pour un jour ou pour toujours. Mais ça, c'est comme tout le monde. Puis avoir le droit aussi de divorcer, de se séparer. Mais nos enfants... Il y a des enfants qui sont issus de Vivre Debout. Qui aurait parié un copec sur l'aventure Vivre Debout? Personne. Tout le monde s'attendait à ce qu'on se casse la gueule, en fait. Et ils ont dit, non, ils sont trop handicapés. Ils sont pas assez responsables. Ils sont tellement dépendants. Ils ne peuvent rien faire. Un myopathe, ça ne lève pas le petit doigt. Comment vont-ils arriver à gérer un établissement?
Compter sur moi-même.
T'as pas de retraite? T'as pas travaillé de ta vie?
Non.
Oh putain, paresseuse.
Mais comment?
Anne touche en fait l'allocation adulte handicapé parce qu'elle n'a jamais pu exercer un emploi et cotiser. À Vivre Debout, on gagne des années. Plus en fait la vie est belle, plus on se sent bien dans sa tête et plus longue est la vie. Et non seulement elle est longue, mais elle est de meilleure qualité. Donc ça, c'est difficile à faire comprendre. Et puis c'est vrai que les lois sont quelquefois à mille lieues de la réalité. Quand on nous disait, par exemple, qu'on n'avait pas le droit de remplacer nos auxiliaires de vie pendant les vacances ni le week-end, mais nous, on est handicapés 365 jours par an, jours fériés et week-ends compris. Je veux dire, nous, ça n'a aucune importance. Tous les matins, il faut que quelqu'un nous aide à nous lever et à nous alimenter ou à nous habiller. C'était quelquefois difficile de faire comprendre ça à un directeur départemental de l'aide sociale, des choses comme ça.
Alors, à quelle heure te lèves-tu ?
Ah, c'est tellement bien.
À quelle heure te couches-tu ?
Minuit.
Combien de temps mets-tu pour aller du lit au fauteuil électrique ?
30 secondes.
30 secondes ?
Avec mon ami.
Cigare de vie ?
Il y a un ami.
Qu'est-ce qui te fait ou t'a fait le plus rigoler dans la vie ?
Un théâtre.
Il faut avoir quelque chose à dire quand tu fais du théâtre. C'est, tu le sais, ça ? Hein ? Il faut avoir, il faut avoir une blessure intime. Toi, tu l'as. Hein ? Hein ? Au moins, tu es différente des autres, c'est bien.
On est tous différents.
Non. Non. Alors, non, là, je viens de faire un stage, il y avait 8 filles, toutes les mêmes. Elles avaient toutes le même âge, toute la même coiffure, toutes la même jean, déchirées, etc. Toutes pareilles, des clones.
Ah oui, maintenant, oui.
Oui, non, mais... Là, les gens se ressemblent de plus en plus.
Hein. Ah oui, mais moi, je ressemble à personne.
Et oui, on peut faire du théâtre. Et oui, on peut raconter des histoires. Et oui, on peut bouger sur une musique. Tiens, comme c'est bizarre. C'est étonnant quand même. Nous, on peut faire ça. Ah oui, on a déjà pu travailler, fonder des familles, mettre des enfants au monde, avoir notre propre appartement, être intégré au quartier, faire partie du conseil citoyen de la mairie de Beauport. Mais on peut aussi danser, raconter des histoires. Ben oui, et pourquoi pas.
Un souvenir, Anne, un souvenir récent. Pour notre prochain carnaval, lorsque nous nous sommes demandé qui allait-on brûler à la fin du carnaval, Catherine a proposé de brûler un fauteuil. Et toi, tu te souviens qui tu as proposé de mettre dans le fauteuil ?
Madame Pitié.
Madame Pitié.
En fait, il n'y a que l'avenir qui m'intéresse. Je compte y passer mes prochaines années. Et ben, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette phrase. C'est Woody Allen. Elle est bien pour nous qui sommes déjà vieux. Il n'y a que l'avenir qui nous intéresse. Nous comptons y passer nos prochaines années.
Moi, mon avenir, je ne sais pas où je vais aller. J'ai un gros problème. L'avenir du fric.
Du problème de fric ?
Alors, l'avenir, c'est pas rose.
T'as pas envie de t'engager en Syrie, des trucs comme ça, des aventures fortes?
Non, non, parce que je suis athée.
Ah, t'es athée.
Athée.
Oui, athée, je comprends. Mais...
Ouais. Quand je n'ai pas de fric, je ne peux plus voyager.
Oui.
Le fric est le nerf de la guerre.
Le fric est le nerf de la guerre. Mais tu voudrais faire quoi comme voyage ? Bon, je peux peut-être le payer, tu sais, moi j'ai pas mal d'argent en réserve. Edith surtout, elle a une assurance vie. Je te fais le chèque, t'es prête ? Il faut que tu me dises le voyage que tu veux faire dans les 10 secondes. 10.
Le Sénégal.
Oh putain, Edith. Oh là là. Non.
Mais d'ici là, il est trois fois au Sénégal.
Ah bon ?
Hambourg.
Hambourg, le village.
Oui.
Ah ouais, le petit port. C'est joli.
Mais moi, je préfère la brousse.
Tu préfères la brousse ? Anne, tu as toujours eu le goût de la liberté. Tu es adepte de la fugue. Tu as fui les foyers collectifs.
Ah oui.
Tu es allée toute seule en Guyane.
En Guyane, oui.
Tu es allée trois fois au Sénégal.
Bientôt 4.
Bientôt 4, car tu vas bientôt partir au Sénégal.
Je pars d'abord au Québec. Après, je suis parti au Maroc, à l'arrache.
Tu es parti au Maroc, à l'arrache?
Après, je suis allé en Martinique, en Guyane. Je suis parti en Thaïlande.
En Thaïlande?
En Thaïlande.
Tu n'as peur de rien?
Non. Je suis parti en Guyane, toute seule. Maman, toute seule.
Vous avez des amis là-bas?
Oui. Ils m'attendaient.
Cayenne.
À l'aéroport, à Paris, ils demandent à un mec que je ne connaissais pas de veiller sur moi dans l'avion.
Le cadeau.
Tu préfères le train qui passe à la vache qui regarde?
Ah oui, ah oui.
Je te fais un souvenir encore. C'est quand Anne a disparu. Je ne sais pas à quelle occasion, Anne avait disparu. Quelqu'un a dit, elle est partie par là, sur la route. Madame était partie en promenade sur la Nationale 12. Et je ne sais pas ce que tu allais foutre là-bas. Tu étais à plus de 8 km d'ici. Tu allais te promener.
L'avenue Pétain-Gamme.
Ah oui, t'avais pété un câble, oui.
Quand j'ai pété un câble, moi, je pars.
Voilà.
Je pars n'importe où, mais je pars.
Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme.
Quitte ta femme, quitte ton pays.
Tu connais le poème? C'est pas vrai.
Quitte ta femme, quitte ton pays.
Quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir.
Oui.
Il y a l'air, il y a le...
Le vent.
Les montagnes, le...
Ciel.
Les enfants, les animaux. Et le charbon de terre. Apprends à vendre, à donner, à revendre. Donne, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir.
Partir.
Manger, boire, siffler. Et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir.
Anne de Jean.
La rebelle à la licorne.
La rebelle à la licorne.
Le monstre à roulette. Le monstre à roulette.
Raconté par
Sylvie Gaston.
Avec Jacques-Yves Chine, Théâtre de l'Unité. Catherine Papoin, Jocelyne Bonsang.
De Vivre Debout.
Vivre Debout. Leïla Ben Salem. Alain Béziel, du Théâtre de la Cavale, lit la note bleue de Michel Glotz. Attaché de production, Inès De Bruyne.
Oui, de son.
Benjamin Chauvin.
Réalisation.
Anne Fleury.
Mixage.
Alain Joubert. C'est bien que tu ailles au Sénégal... au mois de décembre.
Allez, j'espère. Voilà.
Demain, à 23h, rendez-vous avec Hélène Azéra. Mercredi prochain, nous retrouverons la voix de Marc Riboud dans Cœur de fer par Pierre-François. Et jeudi, Sister à la borde par Hélène Maton et Nathalie Battus. Belle nuit, à l'écoute des programmes concoctés par Philippe Garbi.